monde veut être une star.
Mais personne veut être une planète.
Tout le monde traîne dans les bars.
Où personne n'est honnête.
Tout le monde veut que tout le monde l'aime.
Mais personne n'aime tout le monde.
Tout le monde veut que tout le monde l'aime.
Mais personne, personne, personne
n'aime tout le monde.
À Cash City,
tout le monde a des idées.
Empruntées à la télé,
tout le monde a ses coutumes.
Chacun a son costume.
Tout le monde est imposteur.
Chacun est son propre héros.
Tout le monde a un poster de Marilyn Monroe.
Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne.
Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne, personne, personne n'aime tout le monde. À Cash City. Parfois on sort à Cash City, dans les tours de l'ennui.
Tout le monde veut prendre de l'altitude, de l'altitude. À Cash City, dans une ville qui n'est belle que la nuit, dans les yeux qui supplient.
Tout le monde danse avec sa solitude, sa folitude. À Cash City.
Tout le monde rêve à l'amour.
Chacun a son histoire du cul.
Et quand revient le jour,
tout le monde reste déçu.
Tout le monde fait son petit numéro
et danse dans son coin.
Tout le monde fait le même rêve porno,
de se tenir la main. À Cash City.
Tout le monde veut être quelqu'un,
car personne n'aime personne.
Tout le monde veut être quelqu'un
avant que le glam sonne.
Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde.
Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne, personne, personne n'aime tout le monde.
À Cash City. Parfois on sort à Cash City, dans les tours de l'ennui.
Tout le monde veut prendre de l'altitude, de l'altitude. À Cash City, dans une ville qui n'est belle que la nuit, dans les yeux qui supplient.
Tout le monde danse avec sa solitude, sa folitude.
À Cash City.
Luc de la Rochelière est bon pour énoncer des vérités ou même des évidences. Il l'a fait avec La vie est si fragile. On vient de l'entendre ici en duo avec Francis Cabrel. Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. C'était la pièce Cash City.
Actualité culturelle, artistique, exclusif, cinéma, c'est dans la presse d'aujourd'hui. Un rôle principal pour ses débuts au grand écran. Les premiers pas de Léane Labrèche d'Or au cinéma se feront par la grande porte. L'actrice a décroché le rôle principal du prochain film de Martin Laroche, Le Rire, aux côtés d'Alexandre Landry et de Micheline Langteau, a appris la presse. Depuis sa sortie de l'École nationale de théâtre, Léane Labrèche d'Or a surtout été vue dans des émissions à sketch où elle met de l'avant son jeu comique. Pensons à SNL Québec, Le Nouveau Show, Les Magnifiques et Les Bobos. Pour sa première expérience au cinéma, la comédienne jouera sur un nouveau terrain. Ce scénario-là, je l'ai lu et je suis tombée en amour bien raide, dit l'actrice, très excitée par ce nouveau projet. Le long-métrage « Le rire » est un drame parsemé d'humour qui raconte l'histoire de Valérie, Léane Labrèche d'Or, survivante d'une guerre qui a secoué le Québec il y a 8 ans. Petit à petit, elle refait sa vie avec un nouvel amoureux, Alexandre Landry, et se lie d'amitié avec une femme vivant avec un handicap physique, Micheline Langteau, au CHSLD où elle travaille. Le réalisateur résume « C'est un peu une exploration du complexe du survivant. Pourquoi c'est moi qui ai survécu ?» dit Martin Laroche. « Juste comme on m'appelle en audition pour un truc comme ça, j'étais contente, parce que je suis persuadée que d'autres réalisateurs ne m'auraient même pas appelée en se disant que ce n'était pas « mon range », entre guillemets, » dit Léane Labrèche d'Or. Il s'agit du 3e long métrage du réalisateur dont les 2 derniers films, Les Manèges humains et Tadoussac, ont obtenu des distinctions dans les festivals et des sélections aussi au Gala Québec Cinéma. Pour la première fois, le réalisateur et scénariste ne portent pas la casquette de producteur. La boîte Afani a décidé de produire ce long métrage après en avoir lu le scénario. Le film bénéficie d'un budget de 2 à 3 millions de dollars. Martin Laroche avoue que Léane Labrèche d'Or n'était pas son premier choix. Le rôle de Valérie avait été offert sans audition à une actrice qui est tombée enceinte. Le réalisateur et la productrice Fanny Laure Malot ont alors ouvert des auditions pour trouver la perle rare. Léane n'est pas la comédienne qu'on attendait le plus en audition. Nous savions qu'elle avait un timing humoristique incroyable, mais c'est dans le dramatique qu'elle nous a surpris. Elle nous a vraiment jeté sur le cul et le choix est devenu évident, dit le réalisateur Martin Laroche. C'est vrai qu'on dégage une certaine affaire, enchaîne Léane Labrèche d'Or. Dès que les gens te casent dans une chose, ils pensent que tu ne peux pas en faire d'autre, autant le public que les gens du milieu. Et ce n'est pas de la mauvaise foi. Depuis quelques années, de nombreux comédiens dénoncent le manque d'audition. Les premiers rôles sont souvent attribués sans processus d'audition, comme ce fut d'abord le cas pour Le Rire. Léane Labrèche d'Or explique que c'est aussi parce qu'une actrice est tombée enceinte qu'elle a décroché son premier rôle au théâtre dans Les Muses orphelines. C'est la même chose au théâtre qu'au cinéma. Il n'y en a pas d'audition. Même s'il comprend totalement la frustration des acteurs, le réalisateur explique qu'il est difficile de faire autrement. D'abord, ça coûte cher, les auditions. De plus, la SODEC et Téléfilm aiment bien que nous leur soumettions des noms d'acteurs lorsqu'on demande des subventions. Ça les rassure. Alors, nous essayons en amont de trouver des comédiens pour les rôles principaux. Mais j'avoue que c'est un chemin mal fait et que ce serait mieux de trouver les comédiens après avoir reçu les subventions. Léane Labrèche d'Or est tout de même bien consciente de sa chance de cumuler les rôles, et ce, dans plusieurs formes d'art. À l'été, elle reprendra son rôle dans la création « On t'aime, Michaël Gouin » au Théâtre La Marjolaine. Elle poursuit les tournages de l'émission de télé « Les Magnifiques ». Elle anime aussi, aux côtés de Pierre-Luc Fonck, le gala Artisan Québec Cinéma, ce soir à 19h à ICI Art TV. « J'ai l'impression d'être dans un repas complet. J'ai des légumes, une protéine, de la salade et un gros dessert sucré », dit la comédienne. « Goûter à tout, c'est une immense chance que j'ai », poursuit-elle. « Ça n'arrive à pratiquement personne. Je me trouve chanceuse. » La journaliste culturelle Émilie Perrault transposera dès le 26 octobre le concept de son livre « Faire œuvre utile sur les ondes d'Art TV ». La série documentaire qui illustre les bienfaits de l'art pour le public sera composée de 10 épisodes d'une heure séparés en 2 chapitres. L'émission reprendra une partie des histoires de l'essai, dont celle avec Marc Hervieux, Marc Séguin, Robert Lepage et Simon Boulris. Émilie Perrault, qui a quitté pour l'occasion sa chronique matinale au 98,5 avec Paul Arcan, estime que faire œuvre utile sera touchant, mais pas larmoyant, et que l'accent sera mis sur la personne du public plutôt que sur l'artiste qui l'a marqué. « L'art est tellement plus qu'un divertissement », dit la journaliste. « C'est à la fois une force, un moteur de changement et un puissant médicament. » 20 créateurs et pollinisateurs de culture québécoise ont été faits membres de l'Ordre des arts et des lettres du Québec lundi lors d'une cérémonie tenue à l'édifice Wilder Espace Danse à Montréal. Parmi ceux-ci, le sculpteur, graveur et peintre Armand Vaillancourt a plaidé point levé pour la liberté créatrice, tandis que défilaient à ses côtés des lauréats issus d'horizons très divers, de la poète, réalisatrice, parolière et traductrice Inou, Joséphine Bacon, au réalisateur, scénariste, monteur et producteur Jean-Marc Vallée. À cela s'ajoutent aussi Manon Barbeau, Victor Lévy-Beaulieu, Nicole Brossard, Fernand Dansereau, Angèle Dubois, André Gagnon, Mathieu Iyektouk, Roland Lepage, André Ménard, Ginette Noiseux, Jeannot Pinchot, Constance V. Patty, John R. Porter, Jeanne Renaud, Alain Simard, Yves Sioui-Durand et Jana Sterbach. Denis Villeneuve a confirmé que son prochain projet ne comptera non pas un, mais deux films, étant donné l'univers riche et complexe créé par Frank Herbert. Le cinéaste a choisi de séparer ce projet en deux films. « J'aurais aimé pouvoir réaliser les deux longs-métrages en même temps, mais cela aurait été trop cher », a-t-il confié. « On les fera l'un après l'autre. » Eric Roth, l'étrange histoire de Benjamin Button, a écrit la première ébauche et ensuite j'ai travaillé dessus, de mon côté. « Je ne me suis jamais autant amusé sur le plan créatif depuis Incendie. » Dune devrait entrer en production en 2019. Safia Nolin a dévoilé Les Chemins, premier extrait de son nouvel album Dans le Noir, qui sortira le 5 octobre. Une nouvelle chanson déprimante, a souligné avec une pointe d'humour l'auteur-compositrice-interprète qui garde sa formule musicale minimaliste de deux guitares et voix. Safia Nolin en a aussi fait une captation live réalisée par Jean-François Sauvé dans un stationnement vide à la tombée de la nuit. Sinon, Dans le Noir réunira 13 chansons intitulées La Neige, 1998, Dague, France, Le Néant, dont un duo avec La Force, Lesbian Breakup, Song. Le 18 octobre, Safia entamera une série de 30 spectacles au Théâtre Outremont. Deux soirs plus tard, elle montera sur la scène du Grand Théâtre de Québec. Elle se produira également en France à l'automne. Deux défilés plutôt qu'un qui se tiendront simultanément le 23 juin à la tombée de la nuit au centre-ville. Un grand spectacle marqué par le mélange des styles musicaux, de Claude Pelgag à Claude Dubois, en passant par Marie-Josée Laure, Seba et Orgue, Martha Wainwright et Michel Rivard le soir du 23, également sur la place des festivals. Une centaine de fêtes de quartier à Montréal et à Laval. Le Comité de la fête nationale du Québec a dévoilé hier le contenu de sa programmation 2018 dans la région métropolitaine. On promet de célébrer le Québec et les Québécois dans toute leur diversité les 23 et 24 juin.
Très polyvalente et très entraînante, Betty Bonifaci avec la pièce Grizzly Bear.
Sujet libre, mise à jour dans la presse, Pont Champlain, échéancier et budget irréaliste tranche le VG. Il faudra pratiquement un miracle pour que le nouveau pont Champlain soit prêt en décembre prochain et ne dépasse pas les budgets prévus, tranche le bureau du vérificateur général du Canada dans un rapport publié mardi matin. Comme la presse le révélait en octobre dernier, le VG a lancé un vaste audit de performance en vue d'analyser le processus de remplacement du pont montréalais, évalué à 4,2 milliards de dollars. Il dresse plusieurs constats sévères sur le mode de construction choisi par Ottawa, un partenariat public-privé, PPP, ainsi que sur la lenteur du gouvernement à prendre des décisions. À notre avis, le projet ne sera pas mené à bien dans le respect du budget original, conclut le rapport. Même si des ressources supplémentaires étaient affectées aux travaux de construction ou si de nouvelles méthodes de construction étaient utilisées, le respect de l'échéance révisée du 21 décembre 2018 semble très ambitieux. Les problèmes structurels du pont Champlain sont connus depuis au moins 1999, rappelle le vérificateur. Ottawa a cependant trop tardé à lancer des démarches pour remplacer l'ouvrage, préférant investir dans des réparations de l'ancien pont, ce qui a fait grimper la facture d'au moins un demi-milliard pour le trésor public. Cette constatation est importante parce que les retards dans les processus décisionnels ont entraîné des dépenses évitables de plus de 500 millions de dollars, précise le rapport. Ce chiffre ne tient pas compte des coûts économiques pour la région métropolitaine de Montréal dus à la congestion routière et aux restrictions de charges sur le pont actuel. Et à propos du pont, dans Opinion dans la presse aujourd'hui, section débat du pont Champlain vers le pont Samuel de Champlain. C'est Alain Lavallée, professeur retraité du Cégep Édouard-Montpetit de Longueuil, qui publie ce texte dans la presse. Au cours de la prochaine année, la population de la grande région métropolitaine de Montréal pourra profiter du nouveau pont qui remplacera l'actuel pont Champlain. Depuis quelques décennies, il est prescrit de donner à nos infrastructures les noms complets de nos plus illustres personnages nationaux ou de personnages locaux dont nous souhaitons rappeler l'existence à nos concitoyens. C'est ainsi que dans la grande région métropolitaine de Montréal, nous avons un aéroport international Pierre-Éliott Trudeau, un pont Jacques-Cartier, un tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, un pont Honoré-Mercier. Alors, le pont Champlain 2.0 devrait être nommé pont Samuel de Champlain. Montréal n'échappe pas à cette pratique toponymique avec son parc Jean Drapeau et sa plage Jean Doré. L'aréna Maurice Richard n'est pas l'aréna d'un Richard parmi d'autres, c'est celle du Grand Maurice. Et il en est de même des villes de l'agglomération de Longueuil qui attendent elles aussi l'ouverture du pont renouvelé. Longueuil a sa place Charlemagne, Brossard a sa bibliothèque Georgette Lepage. Le Colisée Jean Béliveau de Longueuil n'est pas le Colisée d'un Béliveau, c'est celui du Grand Jean. Dès novembre 2014, des médias ont avancé l'idée qu'il fallait corriger l'oubli ou l'erreur de 1960 et renommer le pont Champlain renouvelé, pont Samuel de Champlain. À ma connaissance, le premier à faire cette suggestion a été l'éditorialiste de la presse François Cardinal dans un texte publié le 4 novembre 2014, suggestion qu'il reprit le lendemain dans une entrevue à l'émission de Franco Nouveau à la radio de Radio-Canada. Deux jours plus tard, dans la rubrique « Idées du devoir », R. Bédard et F. Bouvier soulignaient avec justesse que cette appellation « pont Samuel de Champlain » permettait à la fois de le distinguer de l'ancien pont tout en permettant de mieux se conformer avec les règles de la toponymie. D'autres médias ont par la suite repris cette idée. À 8 mois, ou un peu plus de l'ouverture officielle de ce pont renouvelé, il faut agir vite car les panneaux routiers et autres indicateurs géographiques devront très bientôt être réalisés. S'il y a quelqu'un parmi nos personnages historiques qui mérite bien d'être rappelé à la mémoire des générations futures, c'est bien Samuel de Champlain. Il a été un grand explorateur et navigateur. Scientifique, il a été un cartographe important. Mais par-dessus tout, il a été celui qui a su préparer avec soin la fondation de Québec et par-delà l'établissement des Français en terre d'Amérique. Il a étudié les 4 tentatives d'établissement que ses prédécesseurs français avaient menées. Jacques Cartier, le sieur de Roberval, 1541-1543, à Cap-Rouge, Laudonnière et Ribaud en Floride, 1562-1567, le marquis de La Roche à l'île de Sable, 1597-1602, et enfin celle de Pierre de Chauvin à Tadoussac, 1599-1600. Champlain a pris bonne note des difficultés rencontrées lors de ses premières expériences d'établissement, dont les relations hasardeuses avec les Amérindiens. Plus importante encore fut son expérience lors d'un voyage au Mexique en 1599 et 1600, voyage où il a été témoin des mauvais traitements que les Espagnols infligeaient aux Amérindiens. Il en est revenu avec le rêve d'un empire où Amérindiens et Européens pourraient vivre ensemble harmonieusement. Il résolut que son établissement soit une colonie basée sur des alliances avec les Amérindiens. Alliance convenue dès 1603 à Tadoussac avec 3 peuples algonquiens, qui acceptèrent que nos ancêtres français vinssent peupler leurs terres, sauf les Montagnais Innus et leur chef Anadabijou et les Algonquins et leur chef Tissouat, ainsi que les Malécites Etchemins. Entre 1603 et le 25 décembre 1635, date de son décès à Québec, Samuel de Champlain a traversé l'Atlantique plus de 25 fois, à une époque où ce n'était pas sans péril, les traversées durant entre 1 et 3 mois. À lui seul, il a établi un pont vers l'Europe en passant près de 4 années en mer afin de plaider la cause de sa colonie auprès du roi de France. On peut sans aucun doute saluer la ténacité et la persévérance de Samuel de Champlain, de même que l'esprit d'humanisme qu'il a cherché à établir dans ses rapports avec ses alliés amérindiens. Que le pont renouvelé porte le nom de pont Samuel de Champlain, voici un sujet qui devrait faire l'unanimité tant de nos élus fédéraux, provinciaux, municipaux, ainsi que de la population, tout en rencontrant les critères actuels de la Commission de toponymie du Québec, ainsi que de la Commission de toponymie du Canada et des autres commissions de toponymie. Il revient maintenant au ministre des Transports du Canada, l'honorable Marc Garneau, ainsi qu'à la Société des ponts Jacques Cartier et Champlain Inc. et à leur entourage d'agir en ce sens. Longue vie au pont Samuel de Champlain. Je n'ai pas le temps de lire tout l'article, mais quand même quelques bribes. Environnement, l'Europe part à la chasse au plastique à usage unique. Marine Laouchaise à Bruxelles. Effarée par la quantité de déchets plastiques qui a envahi les océans, la Commission européenne a proposé lundi une série de mesures pour tenter de réduire drastiquement l'utilisation d'objets à usage unique, du coton-tige au matériel de pêche. Une dizaine de catégories de produits à usage quotidien qui représentent à eux seuls 70 % des déchets échoués à la fois dans les océans et sur les plages sont ainsi dans le collimateur de Bruxelles. Selon Rethink Plastics, une alliance d'ONG pour un avenir sans plastique, 46 milliards de bouteilles en plastique à usage unique sont consommées chaque année dans l'UE, l'Union européenne, mais aussi 580 milliards de mégots de cigarettes, 2,5 milliards d'emballages pour des repas emportés, 16 milliards de gobelets à café ou encore 36,4 milliards de paille. Le plastique peut être fantastique, mais nous devons l'utiliser de façon plus responsable, a lancé l'un des vice-présidents de la Commission, Jyrki Katainen. C'est une nouvelle étape dans la chasse au plastique pour l'UE qui se satisfait déjà d'une petite victoire en la matière. Après l'entrée en vigueur d'une législation restrictive sur les sacs en plastique, près de 3 Européens sur 4 indiquent avoir réduit leur consommation selon l'Eurobaromètre. Merci d'avoir été là et d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens de ce mardi 29 mai. Ici Hélène Denis. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Et je vous invite à rester à l'écoute pour l'émission L'hyperactualité dans quelques minutes.